Honoré de Balzac, La comédie humaine, étude de mœurs, scène de la vie parisienne. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, marchand parfumeur, adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, etc. À Monsieur Alphonse de Lamartine, son admirateur, de Balzac. Chapitre 1. César à son apogée. Durant les nuits d'hiver, le bruit ne cesse dans la rue Saint-Honoré que pendant un instant. Les maraîchers y continuent, en allant à la halle, le mouvement qu'ont fait les voitures qui reviennent du spectacle ou du bal. Au milieu de ce point d'orgue qui, dans la grande symphonie du tapage parisien, se rencontre vers 1 heure du matin, la femme de Monsieur César Birotteau, marchand parfumeur établi près de la place Vendôme, fut réveillée en sursaut par un épouvantable rêve. La parfumeuse s'était vue double. Elle s'était apparue à elle-même, en haillons, tournant d'une main sèche et ridée le bec de canne de sa propre boutique, où elle se trouvait à la fois et sur le seuil de la porte et sur son fauteuil dans le comptoir. Elle se demandait l'aumône, elle s'entendait parler à la porte et au comptoir. Elle voulut saisir son mari et posa la main sur une place froide. Sa peur devint alors tellement intense qu'elle ne put remuer son cou qui se pétrifia. Les parois de son gosier se collèrent, la voix lui manqua. Elle resta clouée sur son séant, les yeux agrandis et fixes, les cheveux douloureusement affectés, les oreilles pleines de sons étranges, le cœur contracté mais palpitant, enfin tout à la fois en sueur et glacé, au milieu d'une alcôve dont les deux battants étaient ouverts. La peur est un sentiment morbifique à demi, qui presse si violemment la machine humaine que les facultés y sont soudainement portées, soit au plus haut degré de leur puissance, soit au dernier de la désorganisation. La physiologie a été pendant longtemps surprise de ce phénomène qui renverse ses systèmes et bouleverse ses conjectures, quoiqu'il soit tout simplement un foudroiement opéré à l'intérieur, mais, comme tous les accidents électriques, bizarre et capricieux dans ses modes. Cette explication deviendra vulgaire le jour où les savants auront reconnu le rôle immense que joue l'électricité dans la pensée humaine. Madame Birotteau subit alors quelques-unes des souffrances en quelque sorte lumineuses que procurent ces terribles décharges de la volonté, répandues ou concentrées par un mécanisme inconnu. Ainsi, pendant un laps de temps, fort court en l'appréciant à la mesure de nos montres, mais incommensurable au compte de ses rapides impressions, cette pauvre femme eut le monstrueux pouvoir d'émettre plus d'idées, de faire surgir plus de souvenirs, que dans l'état ordinaire de ses facultés elle n'en aurait conçu pendant toute une journée. La poignante histoire de ce monologue peut se résumer en quelques mots absurdes, contradictoires et dénués de sens, comme il le fut. « Il n'existe aucune raison qui puisse faire sortir Birotteau de mon lit. Il a mangé tant de veau que peut-être est-il indisposé. Mais s'il était malade, il m'aurait éveillé. « Depuis 19 ans que nous couchons ensemble dans ce lit, dans cette même maison, jamais il ne lui est arrivé de quitter sa place sans me le dire, pauvre mouton. Il n'a découché que pour passer la nuit au corps de garde. S'est-il couché ce soir avec moi? Mais oui, mon Dieu, suis-je bête ?» Elle jeta les yeux sur le lit et vit le bonnet de nuit de son mari qui conservait la forme presque conique de la tête. « Il est donc mort? Se serait-il tué ? » reprit-elle. Depuis 2 ans qu'ils l'ont nommé adjoint au maire, il est tout je ne sais comment. Le mettre dans les fonctions publiques, n'est-ce pas, foi d'honnête femme, à faire pitié? Ses affaires vont bien, il m'a donné un châle. Elles vont mal, peut-être? Bah, je le saurais. Sait-on jamais ce qu'un homme a dans son sac? Ni une femme non plus, ça n'est pas un mal. Mais n'avons-nous pas vendu pour 5 000 francs aujourd'hui? D'ailleurs, un adjoint ne peut pas se faire mourir soi-même, il connaît trop bien les lois. Où donc est-il? Elle ne pouvait ni tourner le cou, ni avancer la main pour tirer un cordon de sonnette qui aurait mis en mouvement une cuisinière, 3 commis et un garçon de magasin. En proie au cauchemar qui continuait dans son état de veille, elle oubliait sa fille, paisiblement endormie dans une chambre contiguë à la sienne et dont la porte donnait au pied de son lit. Enfin elle cria « Birotteau !» et ne reçut aucune réponse. Elle croyait avoir crié le nom et ne l'avait prononcé que mentalement. « Aurait-il une maîtresse ? Il est trop bête, reprit-elle. D'ailleurs, il m'aime trop pour cela. N'a-t-il pas dit à Madame Roguin qu'il ne m'avait jamais fait d'infidélité, même en pensée ? C'est la probité venue sur terre, cet homme-là. Si quelqu'un mérite le paradis, n'est-ce pas lui ? De quoi peut-il s'accuser à son confesseur? Il lui dit des nunus. Pour un royaliste qu'il est, sans savoir pourquoi, par exemple, il ne fait guère bien mousser sa religion. Pauvre chat. Il va des 8 heures en cachette à la messe, comme s'il allait dans une maison de plaisir. Il craint Dieu pour Dieu même, l'enfer ne le concerne guère. Comment aurait-il une maîtresse? Il quitte si peu ma jupe qu'il m'en ennuie. Il m'aime mieux que ses yeux, il s'aveuglerait pour moi. Pendant 19 ans, il n'a jamais proféré de parole plus haut que l'autre parlant à ma personne. Sa fille ne passe qu'après moi. Mais Césarine est là. Césarine! Césarine! Il n'a jamais eu de pensée qu'il ne me l'ait dite. Il avait bien raison quand il venait au petit matelot de prétendre que je ne le connaîtrais qu'à l'user. Et plus là, voilà de l'extraordinaire. Elle tourna péniblement la tête et regarda furtivement à travers sa chambre, alors pleine de ces pittoresques effets de nuit qui font le désespoir du langage et semblent appartenir exclusivement au pinceau des peintres de genre. Par quels mots rendre les effroyables zigzags que produisent les ombres portées, les apparences fantastiques des rideaux bombés par le vent, les jeux de la lumière incertaine que projette la veilleuse dans les plis du calicot rouge, les flammes que vomit une patère dont le centre rutilant ressemble à l'œil d'un voleur, l'apparition d'une robe agenouillée, enfin toutes les bizarreries qui effraient l'imagination au moment où elle n'a de puissance que pour percevoir des douleurs et pour les agrandir. Madame Birotteau crut voir une forte lumière dans la pièce qui précédait sa chambre et pensa tout à coup au feu, mais en apercevant un foulard rouge qui lui parut être une mare de sang répandu, les voleurs l'occupèrent exclusivement, surtout quand elle voulut trouver les traces d'une lutte dans la manière dont les meubles étaient placés. Au souvenir de la somme qui était en caisse, une crainte généreuse éteignit les froides ardeurs du cauchemar. Elle s'élança tout effarée, en chemise, au milieu de sa chambre, pour secourir son mari qu'elle supposait aux prises avec des assassins. « Birotteau, Birotteau » cria-t-elle enfin d'une voix pleine d'angoisse. Elle trouva le marchand parfumeur au milieu de la pièce voisine, une aune à la main et mesurant l'air, mais si mal enveloppée dans sa robe de chambre d'indienne verte à pois couleur chocolat, que le froid lui rougissait les jambes sans qu'il le sentît, tant il était préoccupé. Quand César se retourna pour dire à sa femme « Eh bien, que veux-tu, Constance ?» Son air, comme celui des hommes distraits par des calculs, fut si exorbitamment niais que Madame Birotteau se mit à rire. « Mon Dieu, César, es-tu original comme ça » dit-elle. « Pourquoi me laisses-tu seule sans me prévenir? J'ai manqué mourir de peur. Je ne savais quoi m'imaginer. Que fais-tu donc là, ouvert à tout vent? Tu vas t'enrhumer comme un loup. M'entends-tu, Birotteau ?»« Oui, ma femme, me voilà, » répondit le parfumeur en rentrant dans la chambre. « Allons, arrive donc te chauffer, et dis-moi quelle lubie tu as, » reprit Madame Birotteau, en écartant les cendres du feu qu'elle s'empressa de rallumer. « Je suis gelée. « Étais-je bête de me lever en chemise? Mais j'ai vraiment cru qu'on t'assassinait !» Le marchand posa son bougeoir sur la cheminée, s'enveloppa dans sa robe de chambre et alla chercher machinalement à sa femme un jupon de flanelle. « Tiens, Mimi, couvre-toi donc, » dit-il. « 22/18, » reprit-il en continuant son monologue. « Nous pouvons avoir un superbe salon. »« Ah ça, Birotteau, te voilà donc en train de devenir fou? Rêves-tu ? » « Non, ma femme, je calcule. »« Pour faire tes bêtises, tu devrais bien au moins attendre le jour, » s'écria-t-elle en rattachant son jupon sous sa camisole pour aller ouvrir la porte de la chambre où couchait sa fille. « Césarine dort, » dit-elle, « elle ne nous entendra point. »« Voyons, Birotteau, parle donc, qu'as-tu ? » ?»« Nous pouvons donner le bal. »« Donner un bal, nous, foi d'honnête femme, tu rêves, mon cher ami. »« Je ne rêve point, ma belle biche blanche. Écoute, » il faut toujours faire ce qu'on doit relativement à la position où l'on se trouve. Le gouvernement m'a mis en évidence. J'appartiens au gouvernement. Nous sommes obligés d'en étudier l'esprit et d'en favoriser les intentions en les développant. Le duc de Richelieu vient de faire cesser l'occupation de la France. Selon monsieur de la Billardière, les fonctionnaires qui représentent la ville de Paris doivent se faire un devoir, chacun dans la sphère de ses influences, de célébrer la libération du territoire. Témoignons un vrai patriotisme, qui fera rougir celui des soi-disant libéraux. Ces damnés intrigants, hein ? Crois-tu que je n'aime pas mon pays ? Je veux montrer aux libéraux, à mes ennemis, qu'aimer le roi, c'est aimer la France. Tu crois donc avoir des ennemis, mon pauvre Birotteau ? Mais oui, ma femme, nous avons des ennemis, et la moitié de nos amis dans le quartier sont nos ennemis. Ils disent tous « Birotteau a la chance, Birotteau est un homme de rien, le voilà cependant adjoint, tout lui réussit. » Eh bien, ils vont être joliment attrapés. Apprends la première que je suis chevalier de la Légion d'honneur. Le roi a signé hier l'ordonnance. « Oh alors !» dit Madame Birotteau tout émue. « Faut donner le bal, mon bon ami. Mais qu'as-tu donc tant fait pour avoir la croix ?»« Quand hier monsieur de la Billardière m'a dit cette nouvelle, » reprit Birotteau embarrassé, « je me suis aussi demandé, comme toi, quels étaient mes titres. Mais en revenant, j'ai fini par les reconnaître et par approuver le gouvernement. D'abord, je suis royaliste. J'ai été blessé à Saint-Roch, en Vendémiaire. N'est-ce pas quelque chose que d'avoir porté les armes dans ce temps-là pour la bonne cause ? Puis, selon quelques négociants, je me suis acquitté de mes fonctions consulaires à la satisfaction générale. Enfin, je suis adjoint. Le roi accorde 4 croix au corps municipal de la ville de Paris. Examen fait des personnes qui, parmi les adjoints, pouvaient être décorées, le préfet m'a porté le premier sur la liste. Le roi doit d'ailleurs me connaître. Grâce au vieux Ragon, je lui fournis la seule poudre dont il veuille faire usage. Nous possédons seuls la recette de la poudre de la feu reine, pauvre chère auguste victime. Le maire m'a violemment appuyé. Que veux-tu? Si le roi me donne la croix sans que je la lui demande, il me semble que je ne peux pas la refuser sans lui manquer à tous égards. Ai-je voulu être adjoint? Aussi, ma femme, puisque nous avons le vent en pompe, comme dit ton oncle Pillerault quand il est dans ses gaietés, suis-je décidé à mettre chez nous tout d'accord avec notre haute fortune? Si je puis être quelque chose, je me risquerai à devenir ce que le bon Dieu voudra que je sois, sous-préfet, si tel est mon destin. Ma femme, tu connais une grave erreur en croyant qu'un citoyen a payé sa dette à son pays après avoir débité pendant 20 ans des parfumeries à ceux qui venaient en chercher. Si l'État réclame le concours de nos lumières, nous les lui devons, comme nous lui devons l'impôt mobilier, les portes et fenêtres, etc. As-tu donc envie de toujours rester dans ton comptoir? Il y a, Dieu merci, bien assez longtemps que tu y séjournes. Le bal sera notre fête à nous. Adieu le détail, pour toi s'entend. Je brûle notre enseigne de la Reine des Roses, j'efface sur notre tableau César Birotteau, marchand parfumeur, successeur de Ragon, et mets tout bonnement parfumerie en grosses lettres d'or. Je place à l'entresol le bureau, la caisse et un joli cabinet pour toi. Je fais mon magasin de l'arrière-boutique, de la salle à manger et de la cuisine actuelle. Je loue le premier étage de la maison voisine, où j'ouvre une porte dans le mur, je retourne l'escalier afin d'aller de plein pied d'une maison à l'autre. Nous aurons alors un grand appartement meublé aux oiseaux. Oui, je renouvelle ta chambre, je te ménage un boudoir et donne une jolie chambre à Césarine. La demoiselle de comptoir que tu prendras, notre premier commis est ta femme de chambre. Oui, madame, vous en aurez une. Logeront au second. Au troisième, il y aura la cuisine, la cuisinière et le garçon de peine. Le quatrième sera notre magasin général de bouteilles, cristaux et porcelaines. L'atelier de nos ouvrières dans le grenier. Les passants ne verront plus coller les étiquettes, faire des sacs, trier des flacons, boucher des fioles. Bon pour la rue Saint-Denis, mais rue Saint-Honoré, fi donc, mauvais genre. Notre magasin doit être cossu comme un salon. Dis donc, sommes-nous les seuls parfumeurs qui soient dans les honneurs? N'y a-t-il pas des vinaigriers, des marchands de moutarde qui commandent la garde nationale et qui sont très bien vus au château? Imitons-les, étendons notre commerce et en même temps poussons-nous dans les hautes sociétés. Tiens, Birotteau, sais-tu ce que je pense en t'écoutant? Eh bien, tu me fais l'effet d'un homme qui cherche midi à 14 heures. Souviens-toi de ce que je t'ai conseillé quand il a été question de te nommer maire, ta tranquillité avant tout. Tu es fait, t'ai-je dit, pour être en évidence comme mon bras pour faire une aile de moulin. Les grandeurs seraient ta perte. Tu ne m'as pas écouté, la voilà venue notre perte. Pour jouer un rôle politique, il faut de l'argent. En avons-nous? Comment? Tu veux brûler ton enseigne qui a coûté 600 francs et renoncer à la Reine des Roses, à ta vraie gloire? Laisse donc les autres être des ambitieux. Qui met la main à un bûcher en retire de la flamme, est-ce vrai? La politique brûle aujourd'hui. Nous avons 100 bons 1000 francs, écus, placés en dehors de notre commerce, de notre fabrique et de nos marchandises. Si tu veux augmenter la fortune, agis aujourd'hui comme en 93. Les rentes sont à 72 francs. Achète des rentes. Tu auras 10 000 livres de revenus sans que ce placement nuise à nos affaires. Profite de ce revirement pour marier notre fille, vends notre fonds et allons dans ton pays. Comment, pendant 15 ans, tu n'as parlé que d'acheter les trésorières, ce joli petit bien près de Chinon, où il y a des eaux, des prés, des bois, des vignes, deux métairies, qui rapportent 1000 écus, dont l'habitation nous plaît à tous deux, que nous pouvons avoir encore pour 60 000 francs. Et monsieur veut aujourd'hui devenir quelque chose dans le gouvernement. Souviens-toi donc de ce que nous sommes, des parfumeurs. Il y a 16 ans, avant que tu n'eusses inventé la double pâte des sultanes et l'eau carminative, si l'on était venu te dire « Vous allez avoir l'argent nécessaire pour acheter les trésorières », ne te serais-tu pas trouvé mal de joie? Eh bien, tu peux acquérir cette propriété dont tu avais tant envie que tu n'ouvrais la bouche que de ça. Maintenant tu parles de dépenser en bêtises un argent gagné à la sueur de notre front. Je peux dire le nôtre, j'ai toujours été assise dans ce comptoir, par tous les temps, comme un pauvre chien dans sa niche. Ne vaut-il pas mieux avoir un pied-à-terre chez ta fille, devenue la femme d'un notaire de Paris, et vivre 8 mois de l'année à Chinon, que de commencer ici à faire de 5 sous 6 blancs et de 6 blancs en rien? Attends la hausse des fonds publics, tu donneras 8 000 livres de rente à ta fille, nous en garderons 2 000 pour nous, le produit de notre fonds nous permettra d'avoir les trésorières. Là, dans ton pays, mon bon petit chat, en emportant notre mobilier qui vaut gros, nous serons comme des princes, tandis qu'ici, faut au moins 1 000 000 pour faire figure. Voilà où je t'attendais, ma femme, dit César Birotteau. Je ne suis pas assez bête encore, quoique tu me crois bien bête, toi, pour ne pas avoir pensé à tout. Écoute-moi bien. Alexandre Crota nous va comme un gant pour gendre, et il aura l'étude de Roguin. Mais crois-tu qu'il se contente de 100 000 francs de dot? Une supposition que nous donnions tout notre avoir liquide pour établir notre fille, et c'est mon avis. J'aimerais mieux n'avoir que du pain sec pour le reste de mes jours et la voir heureuse comme une reine, enfin, la femme d'un notaire de Paris, comme tu dis. Eh bien, 100 000 francs, ou même 8 000 livres de rente, ne sont rien pour acheter l'étude à Roguin. Ce petit Xandro, comme nous l'appelons, nous croit, ainsi que tout le monde, bien plus riche que nous ne le sommes. Si son père, ce gros fermier qui est avare comme un colimaçon, ne vend pas pour 100 000 francs de terre, Xandro ne sera pas notaire, car l'étude à Roguin vaut 400 ou 500 000 francs. Si Crota n'en donne pas moitié comptant, comment se tirerait-il d'affaire? Césarine doit avoir 200 000 francs de dot, et je veux nous retirer bon bourgeois de Paris avec 15 000 livres de rente. Hein? Si je te faisais voir ça clair comme le jour, n'aurais-tu pas la margoulette fermée? Ah! Si tu as le Pérou! Oui, j'ai ma biche! Oui! Dit-il en prenant sa femme par la taille, et la frappant à petits coups, ému par une joie qui anima tous ses traits. Je n'ai point voulu te parler de cette affaire avant qu'elle ne fût cuite. Mais, ma foi, demain je la terminerai peut-être. Voici. Roguin m'a proposé une spéculation si sûre qu'il s'y met avec Ragon, avec ton oncle Pillerault et 2 autres de ses clients. Nous allons acheter aux environs de la Madeleine des terrains que, suivant les calculs de Roguin, nous aurons pour le quart de la valeur à laquelle ils doivent arriver d'ici à 3 ans, époque à laquelle, les baux étant expirés, nous deviendrons maîtres d'exploiter. Nous sommes tous 6 par portion convenue. Moi, je fournis 300 000 francs, afin d'y être pour 3/8. Si quelqu'un de nous a besoin d'argent, Roguin lui en trouvera sur sa part, en l'hypothéquant. Pour tenir la queue de la poêle et savoir comment frira le poisson, j'ai voulu être propriétaire en nom pour la moitié qui sera commune entre Pillerault, le bonhomme Ragon et moi. Roguin sera sous le nom d'un monsieur Charles Claparon, mon copropriétaire, qui donnera comme moi une contre-lettre à ses associés. Les actes d'acquisition se font par promesse de vente, sous sein privé, jusqu'à ce que nous soyons maîtres de tous les terrains. Roguin examinera quels sont les contrats qui devront être réalisés, car il n'est pas sûr que nous puissions nous dispenser de l'enregistrement et en rejeter les droits sur ceux à qui nous vendrons en détail. Mais ce serait trop long à t'expliquer. Les terrains payés, nous n'aurons qu'à nous croiser les bras, et dans 3 ans d'ici, nous serons riches d'un million. Césarine aura 20 ans, notre fonds sera vendu, nous irons alors à la grâce de Dieu, modestement vers les grandeurs.